L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Édouard Balladur, mais aussi son ancien ministre de la Défense, François Léotard, comparaîtront cet après-midi devant la Cour de justice de la République. La justice devra déterminer si les commissions perçues indûment pour la vente de sous-marins ont servi ou non à abonder en parfaite illégalité le compte de la campagne présidentielle de l'ancien Premier ministre en 1995.
Après un mois d'interruption, la mobilisation reprend aujourd'hui chez EDF à l'appel des fédérations syndicales qui demandent le retrait du projet de scission de l'énergéticien.
À ce stade, il n'y a aucune autorisation d'utiliser le vaccin chez des enfants dans un cadre classique, précision ce matin du ministre de la Santé en réponse à l'hypothèse d'inclure les plus jeunes dans la campagne de vaccination. Invité aujourd'hui de la rédaction, Agnès Lebrun, vice-présidente et porte-parole de l'Association des maires de France, chargée des questions de l'éducation.
L'actualité à l'étranger, en Italie tout d'abord, où après avoir été lâché par Matteo Renzi et ses troupes, l'actuel chef du gouvernement, Giuseppe Conte, se retrouve contraint de trouver aujourd'hui une nouvelle majorité, et ce, en pleine pandémie.
Et puis après que le Brésil a enfin lancé hier sa campagne de vaccination contre le Covid-19, nous nous rendrons à Manaus, la capitale de l'Amazonie, frappée par une pénurie d'oxygène dans les hôpitaux. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Voilà, l'actualité étant ce qu'elle est, on a choisi d'essayer de s'échapper un peu par l'imaginaire et par les concepts avec le joli mot d'utopie. Il a été un peu dévoyé, il s'est perdu en route. On va tenter de le retrouver et de le définir à la lumière d'aujourd'hui avec l'historien Thomas Boucher, qui signe Utopie chez Anna Moza. Il raconte ce mot et se demande comment donc on peut lui redonner un sens aujourd'hui.
Y a-t-il eu financement occulte de la campagne malheureuse d'Édouard Balladur à la présidentielle de 1995, marquée notamment par la guerre fratricide à droite avec Jacques Chirac? Plus de 25 ans après, l'ancien Premier ministre va donc devoir faire face à la justice cet après-midi dans ce volet de la tentaculaire affaire dite Karachi. Accusé d'avoir bénéficié en marge de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan de rétrocommissions illégales destinées à renflouer ses comptes de campagne, l'ancien locataire de Matignon comparaîtra devant la Cour de justice de la République, la seule instance habilitée à juger les membres de l'exécutif pour l'exercice de leurs fonctions. Il devrait également être accompagné à la barre de son ministre de la Défense de l'époque, François Léotard, accusé de complicité d'abus de biens sociaux, du moins a priori, car ce dernier ayant fait savoir qu'il était malade, le procès Florence Thion pourrait cependant être suspendu dès son ouverture.
La présence de François Léotard, 78 ans, qui s'est défendu sans avocat durant l'instruction du dossier, reste incertaine. En revanche, Édouard Balladur, 91 ans, se présentera au moins pour ce premier jour d'audience devant les trois magistrats et les 12 parlementaires qui composent la Cour de justice de la République. Il veut faire face aux accusations portées contre lui, précisent ses avocats, qui entendent plaider la relaxe en estimant par ailleurs que les faits sont prescrits. L'ancien Premier ministre a toujours balayé la thèse d'un financement occulte de sa campagne électorale par le biais de rétrocommission versée en marge d'importants contrats d'armement avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Au-delà de l'enjeu judiciaire, il s'agit aussi pour lui de laver tous les soupçons qui entourent ce dossier, à commencer par celui de l'attentat de Karachi, qui avait coûté la vie à 15 personnes, dont 11 Français, salariés de la direction des chantiers navals en 2002. L'instruction est toujours en cours, sans avoir encore tranché sur l'origine de cet attentat, action terroriste d'Al-Qaïda ou représailles après l'arrêt des commissions par la France, mais c'est bien au cours de cette instruction que sont apparus les soupçons 15 ans après la validation des comptes de campagne d'Édouard Balladur par le Conseil constitutionnel. Ces comptes constituent également la toile de fond de cette affaire dont le volet correctionnel a déjà été jugé. Les 6 prévenus du dossier, dont plusieurs proches d'Édouard Balladur et François Léotard, ont tous été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison ferme dans ce volet financier. Ils ont fait appel du jugement que la Cour de justice de la République ne peut toutefois pas ignorer.
Le choix d'un demi-dieu pour baptiser son projet de restructuration était-il le signe précurseur d'une acceptation en demi-teinte? Toujours est-il qu'après un mois d'interruption, la direction d'EDF se retrouve à devoir affronter aujourd'hui une nouvelle grève à l'appel des fédérations syndicales qui toutes demandent le retrait de ce colossal projet dit Hercule, donc lequel prévoit de scinder les activités de l'énergéticien en 3 entités, l'une publique pour les centrales nucléaires, une autre cotée en bourse pour la distribution d'électricité et les énergies renouvelables, et enfin une troisième qui coifferait les barrages hydroélectriques. Et c'est ainsi donc que cette réorganisation fait craindre à terme, un démantèlement pur et simple du groupe. Alors depuis l'annonce de ce projet et le début de la mobilisation syndicale, les organisations reconnaissent au moins une avancée. Le discours sur les barrages hydroélectriques a changé. Il était question de les privatiser et ce n'est plus le cas. En revanche, pour eux, le reste du projet n'est toujours pas viable. Je vous propose d'écouter Anne Debregas, ingénieure chercheuse chez EDF et porte-parole de Sud Énergie. Elle répond à Anne Lorchouin.
Les barrages sont exploités par EDF via des concessions. L'Union européenne demande depuis des années à la France de mettre en concurrence la concession sur ces barrages, c'est-à-dire qu'ils pourraient être exploités par des entreprises privées. Donc il y a eu effectivement une très forte mobilisation pour montrer que qu'il y avait vraiment des gros dangers de laisser des acteurs privés multiples exploiter ces barrages. Des dangers à la fois pour la gestion d'une ressource en eau qu'on sait de plus en plus rare, qui est absolument stratégique à la fois pour le système électrique mais aussi pour d'autres usages, comme l'irrigation, la pêche ou autre. Il y avait des enjeux énormes en termes de sûreté. Les barrages, ce sont des ouvrages extrêmement dangereux potentiellement s'ils sont mal exploités. Qu'il faille renationaliser la partie, pas seulement nucléaire, en fait, toutes les filières historiques, c'est-à-dire le nucléaire, l'hydraulique et puis aussi le thermique, ça on en est convaincu, mais il ne faut surtout pas privatiser le reste, notamment le réseau de distribution. Alors là, c'est vraiment une aberration, c'est vraiment un monopole naturel, la distribution. On pense que c'est une aberration de démanteler EDF. Il y a plein de compétences transverses qui sont utiles pour tout. Le système électrique est vraiment intégré par nature et le laisser à des acteurs différents, ça rend plus cher, ça rend plus fragile le système. On voit déjà ces problèmes apparaître. Non, mais en fait, au-delà d'Hercule, ce qu'on dit, c'est que depuis 20 ans maintenant, la mise en concurrence du système électrique est à l'œuvre. Ça ne fonctionne pas. Alors qu'en face de nous, on a une crise climatique majeure qui impose de faire des investissements très lourds et on sait que ces investissements ne pourront être faits que par une structure publique si on veut qu'ils soient faits de manière efficace et la moins coûteuse possible.
Voilà, Anne Debregas, ingénieure chercheuse chez EDF, porte-parole de Sud Énergie, jointe au téléphone par Anne Lorchouin. Autre appel à la grève aujourd'hui chez les salariés de Sanofi, cette fois-ci le laboratoire à la peine dans la course au vaccin a annoncé la suppression de 400 postes supplémentaires. Les syndicats dénoncent le changement de stratégie du groupe, lequel entend se concentrer sur des maladies plus rentable. Voilà bientôt un an que les premiers cas de Covid-19 ont été détectés en France à l'hiver 2020. À l'époque, c'est surtout l'absence des visiteurs chinois, particulièrement à Paris, qui témoignait de l'impact de l'épidémie. Personne n'imaginant que les premières difficultés engendrées allaient plonger le pays tout entier dans une crise historique. Et 12 mois plus tard, malgré les espoirs suscités par la vaccination, eh bien, ce début d'année 2021 reste encore largement anxiogène. Problème d'approvisionnement, irruption de nouveaux variants plus contagieux, tout cela risque évidemment de ne pas améliorer le moral des plus angoissés. Cette hausse de l'anxiété s'est d'ailleurs ressentie dans la consommation même de médicaments au sein de la population en général, en particulier celle de tranquillisants et de somnifères. En revanche, et à l'inverse, plusieurs études viennent révéler combien la consommation des produits pour les diagnostics médicaux a chuté. De même, par peur de déranger ou d'être contaminé à l'hôpital, les activités de consultation et de chirurgie ont considérablement diminué. Des retards de prise en charge, donc tarache légale qui pourrait avoir de graves conséquences à terme.
Oui, en ce qui concerne l'oncologie par exemple, le réseau Unicancer, qui regroupe les praticiens des 18 centres de lutte contre le cancer français, note qu'il y a eu probablement entre 30 et 50% d'actes médicaux en moins. Les chiffres définitifs de leur enquête ne sont pas encore sortis, mais l'association estime que ça devrait se traduire par des décès supplémentaires de l'ordre de 1000 à 6000 malades qui n'auraient donc pas succombé sans le Covid-19 et l'arrêt de leurs soins. La Ligue contre le cancer corrobore ces chiffres et craint même qu'on se situe dans la fourchette plutôt haute. Et puis l'autre chiffre intéressant, Thomas, c'est cette baisse des greffes d'organes de l'ordre de 25%. Elle est particulièrement sensible pour les organes pour lesquels on a un traitement de substitution, comme les dialyses par exemple, qui peuvent pallier pendant un temps une greffe de rein. Là, on dépasse facilement les moins 25% de greffe. Pareil pour le pancréas. En revanche, pour les greffes du cœur ou du foie, la baisse est plutôt de l'ordre de 15%. Mais comme le précise la directrice générale de l'Agence de biomédecine, qui ordonne toutes les greffes d'organes, aucun malade n'a été mis en danger. Emmanuel Corteau-Boucher.
Toutes les greffes qui étaient urgentes et qui faisaient peser un risque vital sur les personnes qui étaient en attente ont été réalisées, y compris au moment de la première vague de l'épidémie, pendant laquelle le ralentissement de l'activité a été le plus sensible. Donc en aucun cas, je dirais, cette baisse ne peut, en tant que telle, avoir privé un malade qui avait un besoin compte tenu d'un risque vital, un besoin urgent d'une greffe de cœur, de cette greffe de cœur.
En revanche, les greffes moins urgentes ont été retardées avec un impact certain sur la qualité de vie des patients. Une personne qui souffre d'insuffisance rénale doit par exemple aller 3 à 4 fois par semaine pour suivre une séance de dialyse à l'hôpital. À noter qu'en octobre, toutefois, les dons d'organes et les greffes ont repris un niveau quasiment normal, avec ensuite une nouvelle diminution. On sera, dit Emmanuel Corteau-Boucher, autour de 4400 greffes en 2020 contre 5900 greffes en 2019. Les chiffres consolidés sont encore à venir.
Et toujours s'agissant des conséquences donc liées à cette crise sanitaire, invité aujourd'hui de la rédaction Agnès Lebrun, vice-présidente et porte-parole de l'Association des maires de France, chargée des questions de l'éducation. Bonjour madame.
Bonjour.
Ce matin, le ministre de la Santé a indiqué que le président Emmanuel Macron lui avait demandé de publier en toute transparence la répartition des doses de vaccins dans le pays. Olivier Véran qui assure par ailleurs qu'il n'y a pas de stock caché et que la vaccination se fait à flux tendu. Est-ce que ce genre de déclaration est de nature à vous rassurer, étant entendu qu'aujourd'hui, on le sait, de plus en plus de maires montent au créneau pour réclamer au gouvernement de dire la vérité, en clair, pour éviter que ne se répète donc aujourd'hui avec les vaccins la même histoire qu'avec les masques ou les tests l'an dernier?
À chaque fois que l'on se parle, on peut espérer que les choses aillent mieux, parce qu'on ne se parle jamais suffisamment. C'est vrai que les maires ont commencent effectivement à monter au créneau pour dire qu'ils ont toujours le sens du réflexe, avec beaucoup de sang-froid, le sens de l'adaptation et avec beaucoup d'ingéniosité, il faut le dire, installent et ont installé des centres de vaccination parce que c'était ce qu'on leur demandait. Et par conséquent, ils souhaitent que finalement le rythme avec lequel ils travaillent soit le même que celui avec lequel l'administration travaille. Malheureusement, l'histoire montre que ça n'est pas, qu'il y a toujours un décalage, c'est-à-dire qu'il y a une très grande réactivité de la part des élus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la proximité de leur population qu'ils soutiennent et que par conséquent, ils ont cette habitude d'être réactifs, sans jamais d'ailleurs obérer le temps de la réflexion, il faut le dire. Les élus locaux ne sont pas dans la dictature de l'émotion, ils savent prendre le temps de réfléchir, mais aussi ils avaient tiré les leçons de la première crise et donc ils sont évidemment très opérationnels. Cette transparence peut-être sera de nature à les rassurer.
Les maires doivent en l'occurrence organiser une bonne partie de la logistique, les prises de rendez-vous pour les vaccinations. En ont-ils véritablement les moyens que vous disent, au fond, les édiles? Sont-ils suffisamment aidés pour mettre en place cette opération d'une telle envergure?
Il y a deux sujets. Il y a le sujet de que sait-on faire et il y a le sujet de avec quel argent le fait-on. Donc le sujet financier, c'est pas un sujet trivial, c'est que cette crise a coûté beaucoup d'argent aux collectivités. L'argent, évidemment, vient d'un budget qui est voté à l'euro près. On ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas, contrairement à l'État. Et par conséquent, les collectivités commencent à être tout à fait inquiètes sur la façon dont leur budget va être monté au mois de mars, puisque c'est dans cette période que les budgets sont montés. Après, ce qu'ils savent faire, c'est très variable selon les territoires, selon qu'on est en zone rurale, en zone urbaine, selon qu'on a du personnel médical avec lequel on peut travailler, ou bien pas, selon les locaux dont on dispose, selon le personnel dont on dispose aussi. Et là, c'est là aussi que joue d'ailleurs l'intelligence territoriale, territorialisée et territoriale, c'est que chacun dans son territoire sait qui est son meilleur interlocuteur. On observe par exemple que le couple maire sous-préfet fonctionne en général très bien. On part rarement des sous-préfets, comme on part rarement d'ailleurs des personnels municipaux, mais bien souvent, il y a une très grande cohésion dans l'efficacité, parce que les personnels municipaux, par exemple, lorsqu'ils ne sont plus affectés parce que leur fiche de poste ne correspond plus à un métier ou à un travail qui est en phase avec la période de crise, ils demandent d'eux-mêmes, il faut le souligner, spontanément à être réaffectés dans des services qu'ils peuvent renforcer. Et le sous-préfet, évidemment, est sur le terrain également.
Madame Lebrun, je le disais, vous êtes chargée des questions de l'éducation au sein de l'AMF. Qu'en est-il des tests dans les écoles? Là aussi, les mairies sont parfois seules à les organiser, tout en sachant par ailleurs que l'éducation nationale a réduit le nombre des infirmières scolaires ces dernières années.
Bien sûr. Alors, il y a effectivement ce sujet de l'encadrement paramédical ou médical dans les écoles, et ça fait de très longues décennies que l'on observe la déprise lente mais sûre et malheureuse de cet encadrement. Par ailleurs, pour ce qui est là précisément des tests, de la même façon, les élus locaux sont réactifs, ont commencé déjà à réfléchir à la façon dont ils peuvent agir. Et du reste, ils sont, mais sur les tests enfants comme sur les tests en général, ils sont en relation permanente avec la médecine de ville et également avec les pharmaciens, avec les infirmiers, les médecines de ville et les pharmaciens, parce que ce sont aussi les interlocuteurs premiers de la population qui connaissent bien le territoire, qui savent comment faire, qui sont en permanence opérationnels. Donc ce serait vraiment dommage de sauter en quelque sorte cette case. Et je voyais dans le quotidien du médecin, je crois, 8 pharmaciens sur 10 disent qu'ils sont tout à fait prêts à s'engager sur cette voie qui n'est pas nouvelle du reste pour eux, puisqu'ils ont déjà l'expérience de gestes qui vont au-delà de leur simple pratique de pharmacien.
Merci Agnès Lebrun, vice-présidente porte-parole, je le rappelle, de l'Association des maires de France, d'avoir répondu à notre invitation. Une année blanche, c'est généralement le rêve pour tous les professionnels de la montagne, sauf qu'en l'occurrence, cette saison 2020-21 correspond déjà et surtout à une année noire pour le ski français. Le gouvernement a prévu de faire un point d'étape demain sur la possibilité de rouvrir les remontées mécaniques fermées depuis les vacances de Noël, et tout porte à croire que l'exécutif devrait prolonger cette interdiction en raison de la situation sanitaire. Alors ces 12 mois écoulés auront vu émerger dans nos vies des mots parfois ignorés du grand public, pangolins et couvillons, d'autres généralement peu usités, immunité collective, faux négatif, et puis un terme, crève-cœur, a également émergé pour les acteurs du monde culturel, considéré comme non essentiel à la vie économique du pays. Pour se faire entendre, eh bien, ils ont prévu de manifester à nouveau aujourd'hui. Benoît Grossin, bonjour. Benoît Grossin, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. Ici, sous l'international, vous pouvez peut-être l'entendre, quelques dizaines d'intermittents, d'artistes se sont rassemblés à Opéra. Le maintien des mesures transversales de soutien, fonds de solidarité, chômage partiel sont jugés insuffisants, le compte n'y est pas pour la CGT Spectacle. Alors que les discussions se poursuivent en ce moment entre les représentants du monde de la culture et la rue de Valois sur les conditions de réouverture des salles en fonction des données scientifiques sanitaires. La CGT, syndicat majoritaire, estime qu'il n'y a toujours pas de réponse du gouvernement, mais un discours de communication, que la culture est sacrifiée, que des milliers d'hommes et de femmes tombent dans la précarité avec, dit-on ici, 30 000 artistes qui n'ont pas plus de 40 euros par jour pour vivre, des comédiens, des musiciens, des chanteurs, des danseurs ou encore des auteurs plasticiens qui, eux, ne bénéficient pas du statut d'intermittent. Il y a aussi les jeunes, les entrants, qui ne peuvent encore prétendre aux allocations chômage pour une mise ou remise au travail. La CGT Spectacle réclame un financement des répétitions, des résidences d'artistes à hauteur de 115 millions d'euros, la confirmation de la prolongation après le 31 août de l'année blanche pour les intermittents, et puis le respect des droits sociaux, congés maternité, maladie, dans un contexte d'assèchement des caisses dont la CGT Spectacle demande également des garanties sur leur refinancement.
Si, merci Benoît Grossin en direct de la place de l'Opéra à Paris.
12h49 sur France Culture, suite et fin de votre journal, Thomas Cluzel.
En Italie, le Sénat organise aujourd'hui un vote de confiance crucial pour l'avenir du gouvernement. Un vote en réalité en forme de duel. D'un côté, l'actuel Premier ministre Giuseppe Conte, illustre inconnu il y a encore à peine plus de 2 ans et qui, sans jamais s'être frotté au suffrage universel, entend bien profiter de sa popularité pour rester au pouvoir. Et puis de l'autre, l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, au tempérament bouillonnant, à la personnalité jugée souvent un brin autoritaire et qui, après avoir torpillé la majorité à laquelle son parti appartenait, risque bien de s'aliéner ses derniers soutiens. Quoi qu'il en soit, et après avoir obtenu hier la confiance à la Chambre des députés, où les deux piliers de sa coalition disposent de la majorité, Giuseppe Conte va donc tenter le doublé aujourd'hui à la Chambre haute, où il lui manque sur le papier une quinzaine de voix pour atteindre la majorité absolue. Son objectif sera donc de rallier sur le fil du rasoir ces quelques voix dans les rangs des centristes et des non-inscrits, soucieux de barrer la route à la droite et l'extrême droite. Et pour cela, eh bien, le chef du gouvernement a choisi l'attaque plutôt que le consensus. Et puis au moment même où l'Italie affronte sa plus grave récession économique depuis l'après-guerre, Giuseppe Conte a même convoqué l'Europe pour sauver son mandat. Les explications à Rome de notre correspondant Bruce de Galzin.
Giuseppe Conte se veut conquérant. Sans jamais le citer, il attaque celui qui, selon lui, est responsable de cette crise, Matteo Renzi. Une crise que les Italiens, dit-il, et lui-même, estiment sans aucune justification et qui met le pays en danger.
Cette crise risque de provoquer des dommages considérables. Et pas seulement parce que le spread est déjà remonté, mais parce qu'elle a attiré l'attention des médias internationaux et des pays étrangers.
En effet, le spread entre l'Allemagne et l'Italie, cette différence de taux auquel le pays peut se financer, a de nouveau augmenté. Alors Giuseppe Conte veut tourner la page et convaincre que sa majorité enrichie peut gouverner encore. Et pour cela, le président du Conseil lance un appel aux Européens convaincus.
Je veux le dire très clairement, ce serait un enrichissement pour notre alliance d'accueillir les formations politiques qui se reconnaissent dans le socle des plus nobles traditions européennes, libérales, populaires et socialistes. Mais je demande un soutien clair et transparent fondé sur l'adhésion à notre projet politique.
Sauf que beaucoup s'interrogent encore sur la vision de Giuseppe Conte, qui, s'il remporte son pari, gouvernera avec une majorité fragile, au risque de retomber dans l'immobilisme, ce que n'apprécierait pas Bruxelles, et qui a tout de même mis au point, pour l'Italie d'abord, la plus grande opération de financement avec une dette européenne commune.
Après avoir pris la décision controversée de fermer les frontières américaines à de nombreux pays au printemps dernier, Donald Trump a créé la surprise hier en décrétant la réouverture des États-Unis aux ressortissants de l'espace Schengen, de même qu'aux Britanniques, aux Irlandais, aux Brésiliens, à compter du 26 janvier prochain. Une mesure immédiatement rejetée par son successeur Joe Biden, lequel a expliqué qu'il était hors de question de rouvrir les frontières aux touristes alors même que la pandémie continue de s'aggraver aux États-Unis. Voilà donc une illustration de plus du décalage entre les deux camps, en l'occurrence d'un côté le président sortant, partisan d'une levée des restrictions, et de l'autre le président élu, lequel préfère jouer la prudence, qui plus est avec l'émergence de nouveaux variants. Alors c'est le cas en particulier au Brésil, où le gouvernement de Jair Bolsonaro a lancé seulement hier sa campagne de vaccination, soit malgré tout 2 jours plus tôt que prévu, après s'être fait griller la politesse par le gouverneur de l'état de Sao Paulo. Et puis, dans l'état septentrional d'Amazonas, où sévit un redoutable variant, là-bas les premières vaccinations devraient débuter aujourd'hui dans la capitale, frappée notamment par une pénurie d'oxygène dans les hôpitaux. Jean-Mathieu Albertini s'est rendu devant un établissement de Manaus où les proches des patients atteints du Covid attendent désespérément.
Pour certains, il ne reste plus que les prières. Devant l'hôpital du 28 août, des dizaines de personnes attendent des nouvelles de leurs proches soignés à l'intérieur. Assise sur un banc, Isadora est épuisée mais se refuse à quitter les lieux sans son frère. Résignée, elle dort depuis 3 jours sur le parking.
On ne peut pas abandonner un proche ici parce que si sa situation empire, il risque d'être mort à mon retour. Hier, je suis restée jusqu'à l'aube. Presque tous ceux qui étaient là ont perdu un membre de leur famille.
L'oxygène qui a manqué la semaine dernière reste trop rare et pour certains, la mauvaise nouvelle tombe. Beaucoup passent des coups de fil en pleurs pour annoncer le décès d'un proche. Eduardo a encore de l'espoir pour son frère qui doit être transféré vers une autre région du Brésil où la situation sanitaire est mieux contrôlée. Il est par contre beaucoup plus pessimiste pour sa mère.
Elle est internée, intubée et en soins intensifs. Ça fait 2 semaines que je viens ici, dans l'espoir de recevoir une bonne nouvelle. Mais il y a trop de gens et seulement une infirmière pour 40 patients.
Malgré l'espérance que suscite l'arrivée des premières doses de vaccins à Manaus, la ville continue de déplorer tous les jours au moins 50 décès liés à la Covid-19.
Retour aux États-Unis où, à la veille de la cérémonie d'investiture, la capitale barricadée, grillagée, prend chaque jour un peu plus des allures de forteresse assiégée. En attendant, Donald Trump pourrait lui bien vouloir profiter de sa dernière journée à la Maison-Blanche pour user largement de son pouvoir de grâce dans un ultime pied de nez à ses adversaires. Un dernier geste pour la route, en somme, selon plusieurs médias américains, la liste des bénéficiaires de la clémence présidentielle aurait été finalisée dimanche dernier. Y figurerait une centaine de personnes, dont certains anciens conseillers, mais aussi plusieurs criminels en col blanc. Le concert de protestation des pays occidentaux n'y aura rien changé. Hier, à l'issue d'une scène proprement kafkaïenne, Alexei Navalny a écopé d'une peine de 30 jours de prison préventive dans le cadre d'une procédure pour violation d'un contrôle judiciaire. Une peine prononcée non pas dans un tribunal, mais dans un simple bureau de police. Et puis demain, le militant anticorruption sera par ailleurs jugé pour diffamation d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, un délit passible de 5 années de prison. Rappelons en revanche que la justice russe n'a toujours pas ouvert d'enquête sur l'empoisonnement du premier opposant du pays. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par une nouvelle vague de pluie continue depuis le Finistère et le long de la Manche jusqu'au nord de la Lorraine, en passant par les Hauts-de-France. Plus au sud, le soleil se montrera assez généreux quant aux températures. Elles afficheront entre 4 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.